Bonjour Dany, bienvenue.
Bonjour Charlotte et merci à toi pour ton invitation.
Merci donc de nous faire part de ton retour d'expérience sur l'utilisation du legal design au sein de la DJ d'une collectivité. Vaste sujet, moi, que j'ai hâte de découvrir avec toi. Alors, avant d'attaquer directement, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, donc Dany Gilbert, donc je suis actuellement directeur juridique au département de la Vendée, donc effectivement une collectivité locale, comme tu l'as dit. En gros, 2500 agents, 800 millions d'euros de budget, avec les missions assez variées mais classiques d'un département, le social, les routes, les collèges, la culture, etc. Et donc notre mission, ben, c'est de sécuriser juridiquement l'action de la collectivité, mais bien sûr sans la bloquer. Donc il s'agit de concilier sécurité juridique et opérationnalité. Et donc ça passe par du conseil au service, de l'accompagnement de projet, du contrôle bien sûr, et puis la gestion de contentieux. Et donc nous avons 26 collaborateurs dans la direction, essentiellement des juristes, mais pas que. On a aussi des documentalistes, des comptables, assistants administratifs, etc. Et puis ce qui caractérise notre direction, c'est d'un côté son expertise, puisqu'en fait nos clients internes, c'est-à-dire les services de la collectivité, ils ont une bonne maîtrise quand même de leur environnement juridique, hein, ce qui fait que lorsqu'ils viennent vers nous, c'est qu'ils se trouvent en limite. Donc, c'est des questions plutôt pointues lorsqu'ils viennent vers nous. Et en même temps, c'est aussi une certaine polyvalence qui nous caractérise, puisque avec les missions d'un département, on touche finalement entre 25 et 30 disciplines juridiques. Donc, on doit concilier expertise et polyvalence.
Bon, tu ne t'ennuies pas.
Non, pas du tout.
Alors, tu as décidé de te plonger dans le legal design et de t'en servir pour repenser l'organisation de ta direction juridique. Donc, déjà, d'où te vient cette idée?
Alors déjà, quand je suis arrivé à la direction juridique il y a maintenant un peu plus de 4 ans, mon employeur en fait avait exprimé le souhait que la DJ accompagne les services peut-être plus encore dans un esprit de facilitation. Dans le privé, on parle de business partner. Bon, nous on fait pas de business, mais tu vois l'esprit est un petit peu le même. Qu'on s'imprègne vraiment des problématiques opérationnelles des services, et puis que nos clients internes puissent vraiment s'approprier nos conseils, nos analyses, etc. Et ce challenge, moi, il me parlait bien. Parce que je venais d'un tout autre milieu, mais qui faisait vraiment écho à cette préoccupation. En fait, pendant plusieurs années, j'étais dans le secteur culturel, où j'étais responsable d'un service qui fait découvrir aux jeunes et aux enfants les arts et le patrimoine. Donc, en fait, on leur fait découvrir un château, un musée, une réserve naturelle, un opéra. Et ce que je trouvais génial, en fait, c'est que le savoir-faire de ce service, c'était justement cette dimension pédagogique, c'est-à-dire être un pont entre un patrimoine, une œuvre et un public qui bien souvent est éloigné de ces choses-là. Et j'ai retrouvé un petit peu cet esprit-là dans le challenge qu'on nous a confié. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que quand on regarde ces deux services, médiation culturelle d'un côté et direction juridique de l'autre, en apparence, ils sont un petit peu aux antipodes. On est à l'image d'une DJ
Oui, c'est
avec
vrai.
des gens un peu posés, voire un peu froids, et dont la préoccupation principale, c'est la rigueur, alors que la médiation culturelle, c'est plutôt dominé par la créativité, la qualité de la relation, etc. Donc, ça semble des univers très, très éloignés. D'ailleurs, quand j'annonçais à mes anciens collègues que j'allais à la DJ, ils m'ont dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire
Mais
là-bas?
pourquoi tu fais ça?
Mais oui, c'était la sidération. Ils ont été voir les bureaux de la DJ. Ils ont dit, mais c'est une ambiance de monastère. Pourquoi tu vas t'enterrer là-bas? Et en fait, j'ai emmené avec moi en fait une part de ce service avec cette préoccupation pédagogique, cette créativité. Et je l'ai emmené avec moi parce que voilà, cet état d'esprit, en fait, je trouve qu'il collait bien avec le défi qu'on avait à relever. Et peu de temps après, en fait, une fois que je suis arrivé à la DJ, j'ai découvert le legal design. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est la clé, c'est le moyen justement de relever ces défis pour faire en sorte qu'on soit effectivement plus facilitateur, plus branché avec l'opérationnel, etc. Voilà, donc c'était vraiment le moyen, je dirais, idéal pour relever ce défi.
Quelles sont les problématiques auxquelles tu essaies de répondre avec le legal design? C'est le manque de culture juridique, le manque de communication entre les services, c'est tout ça en même temps?
Oui, c'est effectivement ça. C'est les deux volets que tu évoques, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, une question de culture juridique qui a diffusé de façon plus efficace. Bon, je disais tout à l'heure, effectivement, les services, ils ont quand même une bonne maîtrise de leur environnement juridique, mais malgré tout, ça reste quand même assez hétérogène. Il peut y avoir des angles morts. Donc, il y a un besoin d'une bonne appropriation par les services de la culture juridique. Et puis, bah, tu le sais, le droit est très mouvant, surtout en ce moment. Donc, cette question de culture juridique, elle est quand même très prégnante. Et puis, derrière ça, il y a aussi la question de la maîtrise du risque juridique. Oui, enfin, plus la culture juridique est développée, et mieux on maîtrise les risques juridiques. Et puis, un autre enjeu, c'est effectivement la qualité de la relation dans la collaboration avec les services. Voilà, on voulait quelque chose de plus fluide, plus efficace, plus constructif, plus pacifique. Et donc, le legal design va vraiment dans ce sens-là, quoi.
Plus pacifique.
Oui, parce qu'effectivement, en fait, il faut être, je dirais, lucide. En fait, on a beau être dans la même maison, un même bateau, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes priorités, la même culture, le même vocabulaire. Et en fait, ce qui est une évidence pour un service ne l'est pas forcément pour l'autre, et inversement. Donc, il y a vraiment un besoin de se comprendre mutuellement mieux pour que ça fonctionne bien. Et justement, mon ambition, moi, c'est que la DJ, en fait, enfin, travailler avec la DJ soit perçue un peu comme une évidence,
D'accord.
qu'on soit perçu comme une expérience constructive, et que finalement, le service se sent à la fois compris dans ses attentes, dans ses besoins, et puis que la DJ, elle aussi, soit comprise, dans ses analyses et ses préconisations.
Puis il y a un enjeu aussi, c'est que il faut que les gens, enfin que les agents te contactent avant qu'un problème apparaisse. T'es pas
Oui.
forcément là que pour faire le pompier, et je crois que c'est à peu près partout dans toutes les entreprises, on a un peu ce type de problématique.
Oui, effectivement, il y a un rôle de prévention. La notion de culture juridique que j'évoquais, elle est vraiment importante de ce point de vue-là. Effectivement, c'est de faire en sorte que la préoccupation juridique ne soit pas l'exclusivité de la DJ, mais qu'elle soit portée par tout le monde.
Actuellement, ça en est où?
Alors, moi, ça fait plus de 3 ans que je m'intéresse au sujet maintenant, et j'avoue que le démarrage a été un peu long. On a tâtonné, on a dû s'approprier la démarche, hein, peut-être qu'on y reviendra. Et puis, c'est monté en puissance progressivement. On a mis les mains dans le cambouis, on a expérimenté. L'équipe a suivi pas mal de formations, hein. On a fait des formations sur l'empathie, sur la facilitation graphique, sur le langage juridique clair, comment pitcher un contenu juridique, et puis sur l'approche legal design dans sa globalité. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Stéphanie Maré-Batardière, qui, je crois, a fait l'objet d'un précédent podcast, pardon, et qui nous a bien aidé avec sa collègue Sabine Bertrand dans cette démarche. Et maintenant, mais en fait, on est dans une phase de généralisation, c'est-à-dire que on y voit clair maintenant sur comment faire. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais ça y est, on voit clair là-dessus. On a mis en œuvre des choses, on a des feedbacks extrêmement encourageants, et maintenant, il faut déployer plus largement.
Bon, on va revenir sur la méthode après, parce qu'avant, j'ai encore quelques petites questions, hein. Une collectivité, donc moi j'en vois pas tous les 4 matins des collectivités, j'en reçois pas tous les jours. Donc est-ce que tu penses que d'être dans un environnement public, c'est plus compliqué pour mettre en place ce type de méthode?
Alors, on a été face à plusieurs défis. Bon, déjà, je dirais, comme toute direction juridique, le legal design, c'est une forme de révolution culturelle à certains égards. Je sais pas, quand on sort de la fac, en gros, ce sont des universitaires étudiants qui écrivent à des universitaires professeurs. Donc, on ne se pose pas forcément la question de à qui on écrit. Dans le legal design, on a ce réflexe de se dire, mais à qui j'écris, quel est son profil, sa culture juridique, ses besoins, et donc on va changer la façon d'écrire en fonction de la personne à qui on écrit. Donc il y a un vrai changement culturel, et ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc c'est un changement en profondeur, donc c'est du lourd. Donc pour emmener tout le monde, il faut du temps, et c'est une vraie transformation en profondeur, quoi. Donc ça, c'est un premier défi. Et puis, effectivement, nous, en tant que collectivité, notre difficulté, ou en tout cas notre défi, ça a été d'adapter, de nous approprier la démarche par rapport à notre contexte de travail, qui n'est pas forcément le même qu'ailleurs. On a des atouts, par exemple, on connaît très bien nos clients, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça malgré tout. Donc, ça, c'était, je dirais, un élément de facilité pour mettre en œuvre la démarche Legal Design, mais on avait aussi des limites. Je l'ai évoqué, par exemple, la polyvalence, hein, de la direction, avec beaucoup de sujets différents à traiter. Du coup, le copier-coller, ça ne fonctionne pas, hein. Moi, j'ai souvenir d'avoir rencontré un cabinet d'avocats, par exemple, spécialisé en droit des affaires, qui avait intégré la démarche Legal Design. Bon, ils avaient pas mal de templates qu'ils réutilisaient d'un client à l'autre. Nous, on a beaucoup plus de difficultés à mettre en place ce type de reproduction parce qu'en fait, on est souvent consulté pour des questions très particulières et donc les réponses ne sont pas duplicables d'un client à l'autre. Et puis, on a une petite audience, c'est-à-dire que souvent, nous, notre travail, ce n'est pas de refondre les conditions générales de vente d'une société avec une audience assez large. En général, on répond à une, deux, trois personnes. Donc, on ne peut pas non plus créer une équipe multidisciplinaire pour chaque réponse à apporter. Donc, à certains égards, la méthode, du coup, on doit un petit peu la façonner à notre contexte de travail, quoi.
D'accord. Bah justement, en parlant de méthode, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante. La méthode Legal Design a une histoire assez précise. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ça?
Ah, effectivement, moi j'étais un petit peu embarrassé quand j'ai découvert le Legal Design parce que, à la fois, j'étais enthousiasmé par l'approche et ce que ça permettait et tout le potentiel que ça nous ouvrait. Mais quand on passait à la phase mise en œuvre, je me sentais un petit peu embarrassé parce qu'effectivement, si je respectais un petit peu la méthode, on va dire, au sens académique, avec toutes les étapes à respecter, l'équipe pluridisciplinaire, le travail itératif, je me disais, ben, ça ne va pas être facile de déployer ça au quotidien parce que, voilà, comme je le disais, on n'a pas une audience très large dans nos différentes questions, on a une petite équipe, on n'a pas forcément de designer avec nous, etc. Et pour autant, moi, j'avais vraiment à cœur que le legal design infuse toute l'activité de la direction juridique, c'est-à-dire même dans le simple fait de répondre à un mail, je voulais que l'état d'esprit legal design imprègne toute notre activité. Et donc, il a fallu faire un chemin pour, du coup, prendre un petit peu de liberté, ou en tout cas adapter, on va dire, la démarche académique à notre propre environnement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche, c'est l'association Le Lab Légal, qui réunit des praticiens du legal design francophone dans des secteurs publics et privés, donc des profils très variés. C'est très intéressant et ça m'a un petit peu décomplexé parce que j'ai vu aussi que chacun finalement était confronté à cette problématique d'imprégner, on va dire, la démarche legal design dans son propre environnement. Et donc, du coup, nous, notre approche au terme de cette réflexion, ça a été de considérer que le legal design, pour nous, c'est d'abord des piliers, des principes fondamentaux qu'on va décliner en fonction de la grandeur du projet, de sa sensibilité, de son audience, etc. Mais les principes restent les mêmes. Alors, les principes, moi, j'en ai identifié quatre. Après, peut-être que d'autres auraient une vision un petit peu différente. Mais bon, le premier, c'est être centré utilisateur. Ça, c'est, je dirais, fondamental dans l'approche legal design. Ce qui suppose de bien connaître ses clients. Donc, dans une collectivité locale, effectivement, vous n'écrivez pas de la même façon si vous écrivez au président, au directeur général des services, ou un agent d'exécution, ou un chef de service. Et même, je dirais ça, on a été confronté à ça, même deux personnes qui ont la même fonction, par exemple deux chefs de service, on ne leur écrit pas de la même façon parce que, par exemple, un chef de service, je me souviens, il était nécessaire qu'on lui explique la différence entre le domaine public et le domaine privé, parce que sa culture juridique, qui était assez limitée, le nécessitait. Eh bien, en revanche, un autre chef de service, si je faisais ce même préambule, eh bien, c'était presque méprisant, parce que pour lui, c'était quelque chose d'acquis, en fait. Donc, voilà, ça suppose effectivement de bien connaître son public. Le
Bon,
deuxième.
c'est du bon sens et en même temps, on fait pas forcément ce travail-là, on n'a pas ce réflexe quotidien. Donc c'est vrai que c'est bien de rappeler ce côté user-centric qu'il faut s'adapter à son interlocuteur.
Exactement. Et ce n'est pas forcément ancré dans l'ADN des juristes de façon
En
générale. Alors,
général.
certains le font spontanément. Effectivement, le legal design, pour certains, n'est pas nouveau puisqu'ils ont déjà, je dirais, compris les enjeux et ont mis à leur façon en œuvre ces principes-là. Mais en tout cas, le legal design permet de mettre des mots, de formaliser et de généraliser cette approche centrée utilisateur. Donc, ça, c'était le premier pilier. Le deuxième, c'est penser au-delà du juridique pour s'approprier tous les enjeux d'un dossier, sinon on risque de taper à côté, finalement, si on occulte des aspects extra-juridiques. Le troisième pilier, c'est d'avoir un esprit collaboratif, donc effectivement s'associer à d'autres compétences, ça peut être un designer, un graphiste, voilà, donc, penser qu'on n'a pas seul les moyens de la réponse. il faut s'entourer d'autres compétences. Ça peut être aussi d'autres juristes, hein, ou d'autres collaborateurs de la direction. Et puis aussi avoir une démarche itérative, c'est-à-dire le risque, c'est d'avoir comme démarche d'être seul dans son coin où je reçois une question écrite, je travaille dans mon coin et puis ensuite je livre ma réponse écrite par un mail et je n'ai même pas eu de contact avec mon client entre-temps. Eh bien, au contraire, on essaie justement d'entrer en contact au début du travail, avant de rendre la question et peut-être même entre les deux pour qu'il y ait ce feedback comme ça pour s'assurer en fait qu'on tape bien dans le mille dans la réponse qu'on va apporter au service. Et puis, le quatrième pilier qui est non des moindres, ben, c'est la forme au service du fond. Comment est-ce que je vais bien faire passer mon message, mon propos juridique grâce à une forme appropriée? Donc là, du coup, on va mobiliser le langage juridique clair, les infographies juridiques, pardon, la facilitation graphique, etc.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de langage juridique clair?
Oui.
Parce que moi, je vois ce que c'est, mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, ça peut être pas mal d'avoir une petite définition.
Oui. En fait, c'est une façon de rédiger un propos donc juridique pour ce qui nous concerne et qui va sans aucunement simplifier, édulcorer ou mutiler la subtilité du raisonnement, va en tout cas le formuler d'une façon beaucoup plus accessible pour son lecteur. Donc, par exemple, on va éviter la forme passive, on va éviter les phrases avec plein de compléments circonstanciels, des phrases courtes, sujet, verbe, complément. S'il y a des mots techniques, on va soit les remplacer par des équivalents connus ou par des définitions, les compléter par des définitions s'ils n'ont pas d'équivalent. Donc, il y a tout un ensemble de méthodes pour permettre aux juristes d'être vraiment compris dans son propos sans pour autant que son raisonnement soit altéré.
Oui, c'est une méthode rédactionnelle, quoi.
Exactement.
OK. Tu nous as parlé des quatre piliers. Comment ça se décline concrètement sur le terrain? Dis-moi concrètement le premier jalon que tu as posé.
On a beaucoup en fait parlé de nos méthodes, de nos outils. On a effectivement, moi j'ai beaucoup échangé aussi avec mes collègues des services clients pour voir un petit peu comment était perçu notre travail. Et donc de tout ça, de toute cette matière, pardon, on a refondu nos modèles, on a échangé sur notre façon de rédiger pour mieux répondre aux besoins. On a beaucoup réfléchi sur notre relation client. On a fait aussi des réunions avec certaines directions pour travailler sur notre collaboration avec eux. Et puis, on a beaucoup aussi, en tout cas, ça c'est, je dirais, en germe, on va mettre en place des exercices pour pratiquer le langage juridique clair, la facilitation graphique, parce que ce n'est pas uniquement par des formations sur 2-3 jours qu'on s'approprie toutes ces démarches, c'est aussi par l'exercice courant qu'on peut progresser. C'est vraiment une démarche au long cours. Donc concrètement, comment ça s'est décliné? Par exemple, on a revu profondément notre modèle de notes juridiques. Ce serait presque un sujet à part entière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on structure notre note, comment est-ce qu'on la met en forme, la largeur des colonnes sur lesquelles on écrit, comment est-ce qu'on a libellé les titres, les notes de bas de page qui ne sont plus des notes de bas de page, elles ne sont plus en bas de la page, alors je te laisse deviner où est-ce qu'elles pourraient aller. On s'est beaucoup interrogé sur cette mise en forme. Et là, je trouve le résultat vraiment intéressant. Et les feedbacks qu'on a d'ailleurs confirment que c'est dans la bonne voie. Ça, c'est vraiment enthousiasmant. On s'est interrogé aussi, comme je disais tout à l'heure, quand on reçoit une demande écrite, à quel moment on va appeler le service pour que, il ne s'agit pas de le déranger non plus tous les 4 matins, mais de le contacter à bon escient. On a beaucoup plus souvent maintenant recours au schéma, à tout ce qui va être infographie juridique, etc. Et puis, de façon plus générale, en fait, on a tout simplement adapté nos productions aux différents interlocuteurs. On n'a pas de réponse standard. On va essayer vraiment d'adapter notre réponse à la personne qu'on a en face.
Tu as simplifié aussi le contact avec la direction juridique. Ça se traduit comment, en fait, il y a un peu un mode d'emploi de la façon de vous contacter ou pas?
Oui, alors en fait, il y a très pragmatiquement deux canaux principaux. On a fait un petit formulaire en fait en ligne pour permettre au service de nous saisir. pour qu'ils puissent poser leurs mots, nous joindre toutes les pièces du dossier. Et nous, on le reçoit, on attribue la demande à un juriste et le juriste appelle dans la foulée le service demandeur pour s'assurer qu'il a bien compris sa question, recueillir des éléments complémentaires si besoin. Et puis l'autre voie, c'est tout simplement de nous contacter directement parce que voilà, on ne pouvait pas non plus être dans une approche purement dématérialisée process, mais aussi une approche humaine. Et on laisse aussi bien sûr les services nous contacter directement.
Mais bon, on peut dire quand même que tu essaies de standardiser quand même pas mal de choses pour gagner peut-être en efficacité également. Ou
Oui, en
pas,
fait, on a.
enfin, ou est-ce que ce n'est pas forcément une de tes préoccupations?
En fait, il faut qu'on trouve, je dirais, un équilibre entre d'un côté avoir effectivement des points de repère communs entre les juristes, parce que moi, mon souci, c'était qu'il y ait une certaine homogénéité et une cohérence dans notre façon d'approcher le legal design pour que chacun, je dirais, comment dire, s'approprie cette démarche-là et qu'on ait, voilà, que ce soit un juriste ou un autre qui réponde à une question, cette démarche legal design soit déployée de la même façon. Donc, effectivement, il faut une cohérence d'équipe. Donc, on a mis pas mal en place de process avec comment est-ce qu'on rédige une note juridique, avec quelles préoccupations, etc. De quelle façon. Donc, ça, on a des choses assez précises là-dessus. Et pour autant, le côté standard, il trouve ses limites, parce que l'approche du legal design, c'est justement d'être centré utilisateur. Donc, il faut d'abord aussi être à l'écoute des besoins spécifiques du demandeur. Donc, il faut aussi se donner cette marge de manœuvre pour répondre à un besoin spécifique du client qui nous interpelle.
Est-ce que ton équipe, est-ce que toi, t'en ressens les effets aujourd'hui de cette méthode? Tu perçois le changement dans ton
Oui,
quotidien?
alors il y a des signaux en fait qui sont intéressants. Alors, pour l'anecdote, j'avais un collègue directeur dans nos services clients qui m'avait dit un jour: Ah, mais je comprends enfin les notes de la DJ. Bon, c'était une petite boutade parce que je pense qu'il les comprenait un peu avant quand même, mais c'était une façon de dire qu'il parvenait maintenant à s'y approprier vraiment. Un autre indicateur, moi, que je trouve intéressant, en fait, c'est que maintenant, quand on répond à un service, on a des retours spontanés par mail de remerciements et aussi de félicitations, disant: Bah oui, c'est très clair, je comprends très bien, merci, etc. Et ça paraît peut-être évident pour certains de nos auditeurs, mais ce n'était pas forcément aussi courant pour nous. Et ça a été pour nous, je dirais, un signe qu'effectivement, ça répondait aux besoins, puisque ces retours spontanés positifs des services se multipliaient, quoi. Donc, ça, c'était un indicateur intéressant. Et puis, je dirais, l'autre indicateur aussi, c'est qu'on se sent saisi beaucoup plus spontanément qu'auparavant. Le réflexe de passer par la DJ me semble maintenant plus facilement pris par les services parce que du coup, ils sentent cette approche constructive se développer. Donc, je pense que ça porte aussi des fruits par la volonté des services de nous saisir plus facilement qu'ils ne le faisaient auparavant.
En fait, la direction juridique reprend le pouvoir, entre guillemets.
Alors, on n'a pas cette prétention, mais en tout cas d'être pleinement impliqué dans les réflexions et dans les process de la collectivité.
Non, mais c'est important de se redéfinir aussi en tant que juriste afin de montrer l'intérêt en fait de notre métier parce que, comme je dis souvent, faut pas qu'on soit perçu comme des empêcheurs de projet ou des administratifs qui pondent des notes que personne ne lira. Le juridique, c'est vraiment un levier de performance. Donc là, pour le coup, on peut dire que ton pari est presque réussi.
En tout cas, on voit d'être réussi. C'est effectivement un long travail, mais je pense vraiment qu'on est dans la bonne voie.
OK. Les autres collectivités, elles en sont où? Tu étais le seul à faire cette démarche ou
Je n'ai pas une vision exhaustive, mais de ce que je peux voir sur le terrain et autour de nous, il y a aujourd'hui assez peu de collectivités qui s'intéressent au sujet, mais c'est vraiment comment dire, en gestation, ça se déploie progressivement. Je vois que d'autres collectivités se forment au legal design, s'intéressent au sujet, ont une curiosité pour cette approche-là. Donc, c'est en train d'émerger. Voilà, c'est
D'accord.
pas encore très très répandu. Peut-être que ceux qui s'y mettent, c'est assez récent, mais on sent qu'il y a vraiment un élan qui est en train de se déployer.
C'est une bonne chose parce que ça montre qu'il y a vraiment une ouverture sur les autres services, puisque l'intérêt du legal design, c'est d'être user-centric, Donc, bien connaître les métiers des autres, c'est un préalable pour être une bonne direction juridique.
Oui.
Alors, je crois qu'on arrive au bout du temps réglementaire. Est-ce que tu aurais des ressources à nous conseiller pour débuter?
Alors, il y en aurait pas mal. Moi, je vais vous en proposer une qui sera un petit peu disruptive parce que je vais pas te citer un ouvrage d'un cabinet de conseil innovant, etc. Je vais citer une ressource un petit peu insolite, à savoir un guide qui vient de l'État. Ça
D'accord.
paraît effectivement. Ça ne paraît pas effectivement le plus évident comme ressource quand on parle d'innovation juridique. Et pourtant, il y a un guide pratique moi, que je trouve assez super. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais dans l'État, il y a une direction dédiée à la transformation publique. C'est un
D'accord.
petit peu, je dirais, la cellule innovation au sein des services de l'État. Et ils produisent des choses quand même assez intéressantes. Et en particulier, il y a 2 ans, là, ils ont sorti un guide pratique qui s'appelle « Vaincre la phobie administrative grâce aux sciences comportementales ». Voilà.
D'accord, intéressant.
Voilà. Et donc, c'est un petit guide qui n'est pas très, très volumineux, qui est très bien fait à la fois sur le fond et la forme. Et pour ceux qui veulent rentrer dans cette approche égal design, non pas de façon conceptuelle, mais de façon très concrète, très pratique, ben, ce guide, en fait, vous fait tout de suite rentrer dans cette démarche-là. Et donc, ben, c'est vraiment comment une administration, qu'elle soit publique ou privée, d'ailleurs, un peu être centré utilisateur par des moyens très, très concrets dans la rédaction de formulaires, par exemple, dans la façon de répondre à des courriers, etc. Eh bien, ce petit guide pratique, je trouve, est vraiment idéal pour ça. Donc, ça peut être
Ok.
une première approche intéressante. Voilà.
On peut se le procurer où? Ça
Alors,
s'achète ou on peut le télécharger gratuitement?
voilà, c'est un guide qui, effectivement, peut télécharger gratuitement en ligne. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait mettre le lien.
Oui.
Voilà, pas de souci.
Ok, bah écoute, c'était super cet échange. Peut-être que si certaines personnes ont des questions, elles pourront te contacter directement, éventuellement sur LinkedIn.
Oui, avec plaisir.
Ok, bon, bah écoute, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour voir où ça en est alors.
Très bien, merci Charlotte.
À bientôt.
À bientôt.